Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau carnet de région, un concentré d'informations languedociennes proposé par plusieurs radios associatives non commerciales en Languedoc-Roussillon. Et pour toute la durée du mois de mars, c'est Radio FM+ qui en assure la rédaction. Pour ce carnet de région, nous commencerons par nous plonger au cœur de l'actualité puisque nous parlerons des élections municipales qui auront lieu les dimanches 23 et 30 mars prochains. Mais pour ce scrutin, plusieurs modifications sont à noter. Avec Radio RPH, nous irons au cœur de l'Hérault où le préfet Pierre de Bousquet nous explique les quatre grands changements qui vont s'opérer. Les élections municipales sont aussi parfois marquées par d'autres types de changements. En effet, dans certaines communes, des maires ne se représentent pas. C'est le cas de Jean-Pierre Mollet. Au micro de RCF Maglone Hérault, le maire de Téran nous expliquera pourquoi. Puis nous ferons un petit tour dans l'Aude. Là-bas, l'antenne départementale de l'Association des paralysés de France dénonce la remise en cause des fondements de la loi Handicap 2005. RCF Pays d'Aude a donc interrogé pour nous le délégué départemental de l'APF, Roger Julia. Nous retournerons ensuite dans l'Hérault, à Montpellier, lieu de naissance de l'association Le Refuge. En collaboration avec l'Institut Randstad, cette association organise la troisième édition de son concours « Initiative contre l'homophobie et la transphobie ». Au micro de Radio FM+, Jonathan Hude Dufossé nous détaillera le but de cette initiative. Enfin, la slackline. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, c'est une discipline acrobatique qui se pratique de plus en plus. Éclairage sur ce phénomène avec Radio Escapade qui nous emmènera avec elle jusqu'au fin fond des Cévennes.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Pierre de Bousquet, préfet de l'Hérault, a récemment présenté en préfecture de Montpellier les principaux changements du scrutin municipal des dimanches 23 et 30 mars prochains. Toutes les communes héraultaises et bien entendu l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon sont concernées. Au micro de Lauriane Havard de RPH, Pierre de Bousquet nous présente les quatre grandes modifications pour ce suffrage.
Pour améliorer à la fois le respect de la parité entre les hommes et les femmes et améliorer aussi la représentation démocratique aux intercommunalités, un certain nombre de règles vont changer. Tout d'abord, un scrutin de liste obligatoire pour les communes de plus de 1000 habitants et pas seulement de 3500 habitants comme autrefois. Deuxième modification, la déclaration obligatoire des candidatures, qu'elles soient bien sûr de liste ou individuelles, pour toutes les communes. Troisième modification, sur les bulletins de vote dans les communes de plus de 1000 habitants, figureront obligatoirement à la fois la liste des candidats à l'élection municipale et la liste des candidats à l'intercommunalité. Pour les communes de moins de 1000 habitants, les élus à l'intercommunalité seront pris dans l'ordre des élus communaux qui sortiront des urnes. Et puis, quatrième innovation, très importante, on ne pourra voter que sur présentation d'un document d'identité et pas simplement en se faisant connaître ou reconnaître par des gens qui sont au bureau de vote. Donc, pour les électeurs, bien penser à se munir d'une pièce d'identité pour pouvoir voter à ces prochaines élections.
Alors, pour résumer, quatre grandes modifications pour ces élections municipales, le type de scrutin, une déclaration obligatoire de candidature, l'élection des élus à l'intercommunalité et pour les électeurs, un document d'identité exigé. Mais concrètement, au moment du vote, quel type de bulletin sera remis aux électeurs ?
L'électeur va trouver des bulletins de vote établis liste par liste, avec sur chaque bulletin de vote D'un côté, la liste des candidats à l'élection municipale, et de l'autre côté, sur le même bulletin de vote, la liste des candidats à l'élection à l'intercommunalité, ou à la représentation de la commune au sein de l'intercommunalité, la totalité du département de l'Hérault étant maintenant couverte par des intercommunalités. Dans les communes de plus de 1000 habitants, il n'y a plus cette possibilité qui était autrefois offerte jusqu'à 3500 habitants. On vote donc au scrutin de liste.
Les élections municipales sont aussi synonymes de changement lorsque certains maires décident de tirer leur révérence. Dans notre région, les deux cas les plus emblématiques sont Raymond Couder pour Béziers et Hélène Mandroux à Montpellier. Mais c'est le cas également à Téran, commune héraultaise de 4500 habitants. Son maire, Jean-Pierre Mollet, ne se représente pas. Il est à la tête de la ville depuis deux mandats. Et au micro de Romain Bercher de RCF Maglonnérault, Jean-Pierre Mollet nous explique pourquoi il a fait ce choix.
Pour une question bien simple, je me suis fixé une règle, chacun peut-être se la fixe différemment apparemment, mais enfin, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui faisaient un peu comme moi. J'ai passé 70 ans l'année dernière, j'estime que 70 ans pour une tête de liste, c'est suffisant, parce qu'un mandat de maire, c'est 6 ans, donc ça m'aurait fait 76 ans passés. Je pense qu'il faut laisser place aux jeunes. Deux mandats de maire, deux mandats d'adjoint, c'est pas mal, c'est beaucoup. Donc en plus, j'ai à mes yeux un successeur qui est tout à fait capable de prendre la relève, qui a une équipe extraordinaire avec trois quarts de nouveaux très compétents, très complémentaires. Donc je suis très optimiste pour le futur de Téran.
Est-ce que le jour où vous avez décidé d'être maire de Téran, vous imaginiez que cette fonction nécessitait un tel travail dans la vie de tous les jours?
Oui, j'étais très conscient parce que il faut dire que j'ai été deuxième adjoint en 77, premier adjoint en 83, et puis j'étais parti professionnellement, j'étais un peu loin, j'étais parti essentiellement à Bordeaux, et c'est d'ailleurs à Bordeaux que l'ancien maire Marcel Gibili est venu me chercher pour me présenter en 2001, mais dès que j'ai accepté de me présenter, j'ai bien dit, si je suis élu, j'arrête mes activités professionnelles qui étaient totalement incompatibles, j'aurais été beaucoup trop pris, je ne pouvais pas. Et donc j'ai arrêté dès que j'ai été élu maire, je suis passé maire à temps plein.
Est-ce que vous avez reçu une formation pour être maire, ou c'est en travaillant sur le terrain qu'on devient maire?
Alors, ayant été deuxième adjoint, puis premier adjoint, ayant travaillé très proche de Marcel Gibili, je dirais que j'ai eu une formation sur le terrain, mais je me suis quand même servi, lors de mes mandats d'adjoint et pendant mes mandats de maire, du centre de formation des élus locaux, qui dispense une très très bonne formation bien adaptée, que ce soit pour les budgets ou l'urbanisme ou les marchés publics ou autres. Donc j'ai suivi les cours, je me suis inscrit et je crois que c'est indispensable parce que la législation évolue très vite.
Et à l'approche du scrutin des municipales, justement, l'Association des paralysés de France, Aude, prend la parole. L'animateur départemental Roger Julia condamne la remise en cause des fondements de la loi handicap 2005. Il relaie ainsi les avertissements nationaux aux listes des candidats aux municipales et rappelle la tenue de la collecte annuelle APF. Un entretien offert à l'occasion de l'inauguration d'une exposition de peinture de l'atelier de l'APF à Carcassonne. Ce reportage vous est proposé par Éric Boyer de RCF Pays d'Aude.
En deux mots, en février 2005, la loi stipulait que tous les magasins, toutes les collectivités, tout le monde avait 10 ans pour rendre tout accessible. C'est-à-dire au 1er janvier 2015, tout devait être accessible. Quick, là, on nous a sorti, c'était le 26 février, qu'on allait partir sur des ADAP. Les ADAP, c'est des agendas programmés de 3, 6, 9 ans. On reculait de 3, 6, 9 ans. Et moi, personnellement, comment vous dire, quand vous avez des établissements recevant du public, du moment que c'est des collectivités, je comprends que, vu le nombre d'établissements, mairie, enfin tous les bâtiments, ça a un coût, c'est vrai. Mais maintenant, tous les ERP, les établissements recevant du public, 5e catégorie, qui sont privés, en sachant que les personnes n'en ont qu'une, Je suis désolé, mais depuis 10 ans, ça aurait pu être accessible.
Devant cette dure réalité et à l'approche de ces élections municipales, l'association des paralysés de France s'est donc rapprochée de tous les candidats pour leur soumettre un document incluant des engagements. Roger Julia de l'APF au micro de Nathalie Dessos.
Nationalement, l'association a prévu, disons que sur Carcassonne, comme sur Narbonne, comme partout, toutes les grandes villes, y compris à Lille, ils ont les mêmes questions. Un document avec 10 engagements pour apporter un meilleur être aux personnes en situation de handicap.
Vous l'avez relayé pour le département de l'Aude. Quelques déceptions quand même aujourd'hui.
À l'heure actuelle, il y a beaucoup de déceptions puisque nous avons fait sur les 6 villes. On a fait Castelnau-d'Arry, Carcassonne, Lézignan, Narbonne, Limoux, Port-la-Nouvelle. Sur 24 listes que nous avons recensées, à l'heure actuelle, il n'y a que 10 listes qui ont répondu. Et ce qui me navre le plus, c'est, je me posais la question, s'il y avait des candidats sur Narbonne, puisque sur Narbonne, il n'y en a aucun qui a répondu. Alors qu'à l'inverse, Carcassonne, il y a cette liste, il y en a 6 qui ont répondu.
La quête annuelle de l'APF aura lieu samedi et dimanche sur la voie publique. Ce sont les deux seuls jours autorisés de toute l'année avec des quêteurs munis de leur carte personnelle.
Carnet de région, l'actualité en langue croussillon.
Créée en 2003 au cœur du département de l'Hérault, à Montpellier, l'association Le Refuge lutte contre les exclusions des jeunes à cause de leur orientation sexuelle. Aujourd'hui, cette association s'est développée dans toute la France, de Montpellier à Lille, en passant entre autres par Perpignan et Toulouse. Elle propose depuis maintenant 3 ans un concours, Initiative contre l'homophobie et la transphobie. Jonathan Hude Dufossé est chargé de développement pour l'association Le Refuge à Montpellier et il s'occupe de l'organisation de la 3e édition de cet événement. Au micro de Radio FM+, Jonathan revient avec nous sur le but de ce concours.
On est une association donc, qui luttons au quotidien pour les victimes de l'homophobie et de la transphobie par un accompagnement pluridisciplinaire, social, etc. Et puis on a eu la chance d'être sollicité par la Fondation Randstad qui nous soutient depuis plusieurs années maintenant et qui a eu envie également de soutenir au-delà de notre association et de fédérer derrière nous aussi d'autres associations. Et le but de ce concours, c'est de mettre en avant des initiatives qui ne sont pas des initiatives propres au refuge, mais qui permettent un éclairage parce qu'on a obtenu une plus grande visibilité ces dernières années et qui donc à notre sens, nous permet également de mettre en lumière des initiatives qui sont faites par d'autres associations, qui sont parfois plus petites, mais qui font un travail tout aussi remarquable que le nôtre. Et donc l'idée, c'est donc de mettre en avant cela et de les récompenser à la fois médiatiquement, mais aussi par une dotation financière pour le projet en question qu'elles auront préparé et qu'elles auront mis en place. Si, évidemment, il est récompensé, si le prix est attribué par à la fois notre jury et les internautes.
L'intitulé de ce concours, Initiative contre l'homophobie et la transphobie. Alors l'homophobie, on en parle de plus en plus, mais la transphobie, pour certains auditeurs, ça reste assez flou.
Oui, alors la question de la transidentité, en général, est assez floue. C'est une question qui a des dimensions assez complexes dans son ensemble. D'une part, très complexe pour la personne transidentitaire, qui fait tout un cheminement sur la question du soi, sur l'acceptation de soi, alors à la fois son soi physique et son soi psychique. C'est-à-dire que, avant tout, la transidentité, pour résumer, pour faire simple, c'est être né dans un corps qui ne nous appartient pas. Ce sont des personnes qui sont physiquement et biologiquement, par exemple, des hommes ou des femmes, donc on va plutôt parler de mâle ou de femelle puisque c'est un terme biologique, mais qui psychologiquement se ressentent comme étant des individus au contraire masculins ou féminins, c'est-à-dire qu'elles sont nées dans un corps d'homme mais se sentent femmes, ou ils sont nés dans un corps de femme et se sentent hommes. Donc c'est une problématique assez particulière et assez complexe, et la démarche là-dessus, c'est qu'on veut fédérer également sur cette problématique-là, parce que effectivement, l'homophobie, on en entend parler, on la voit au quotidien, mais la transphobie existe tout autant. Nous, au refuge, on accueille également des jeunes qui sont transgenres, transidentitaires, qui sont soit en transition déjà, c'est-à-dire qu'elles ont commencé ou qu'ils ont commencé les démarches pour changer de sexe, ou qui sont simplement en période de questionnement. Et donc cette période de questionnement, elle est très très compliquée pour la personne qui l'a subie. Les regards et les retours qu'elle peut en avoir de la société en général sont très complexes également et sont très peu favorables en général. Donc l'idée, c'est qu'on veut mettre en avant ces initiatives, et d'ailleurs le concours l'an dernier était remporté par une association qui mettait cela en avant, qui s'appelle l'association Chrysalide.
Et comme pour tous les concours, il y a des prix à gagner. En collaboration avec l'Institut Randstad, le refuge remettra donc deux récompenses à l'issue de cet événement. L'une sera décernée par un jury formé de plusieurs membres du refuge, mais aussi de personnes issues du monde politico-médiatique. Cette année, la présidente du jury sera d'ailleurs l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. De plus, grâce au vote des internautes du 2 au 9 mai prochain, sur le site iag.com, un autre prix sera également remis. Mais avant d'en arriver là, Jonathan de l'association Le Refuge nous révèle les conditions pour pouvoir participer à ce concours.
Il faut concourir avant le 30 avril. Au-delà de cela, eh bien, ce sera dommage, mais on ne pourra pas prendre en compte la participation. La première condition, c'est d'être une association de loi 1901, c'est-à-dire sans but lucratif. La seconde, c'est que les actions qu'elle met en place s'inscrivent dans le champ de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, évidemment, puisque c'est avant tout l'essence du prix. Et donc, la dernière condition pour pouvoir concourir, c'est donc le projet en question est démarré en 2013 ou avant la fin du concours et que son aboutissement soit prévu avant la fin de l'année 2014. Donc ça, c'est la seule condition en termes de projet sur la date dans laquelle il doit s'inscrire, puisque comme c'est un concours qui arrive chaque année maintenant, il s'est pérennisé, c'est la troisième édition comme vous le disiez en tout début d'émission, et bien voilà, on est obligé de mettre des cloisons temporelles.
Vous parliez donc des participantes qui seront les associations, et donc c'est pas forcément des associations qui ont comme but premier l'homophobie ou la transphobie, ça peut être n'importe quelle association qui a une action à ce propos-là.
Effectivement, c'est pas une association forcément qui lutte nuit et jour pendant 365 jours par an contre les discriminations homophobe ou transphobe, mais c'est en tout cas une association qui, au cours de l'un de ses projets, s'est dit, ben tiens, on va mettre en avant une action qui va nous permettre de lutter contre les discriminations, et en l'occurrence, pour nous, les discriminations homophobes et transphobes. Donc, c'est pas forcément le cœur même de l'association que d'être une association LGBT, mais c'est en tout cas le cœur du projet. C'est là où vraiment ça doit s'inscrire. Je pense que quand on prône des valeurs telles que les nôtres, qui sont celles du partage, de l'égalité, de l'ouverture, on peut pas cloisonner ce concours simplement à des associations LGBT. Maintenant, effectivement, ce sont celles qui participent le plus, parce qu'évidemment, ce sont celles qui ont le plus de projets en rapport avec cette thématique. Cela étant dit, on n'est absolument pas fermé et toutes les initiatives sont bonnes à prendre.
L'année passée, une quinzaine d'associations se sont donc lancées dans cette aventure. Alors pour participer, vous pouvez obtenir les dossiers d'inscription pour le concours Initiative contre l'homophobie et la transphobie sur simple demande par mail à l'adresse suivante concours@le-refuge.org.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
La slackline, ou slack, est une pratique sportive qui semble avoir été créée en Californie au début des années 1980. Voilà pour la définition de Wikipédia. Mais depuis quelques années, elle est devenue à la mode dans les milieux des sports dits alternatifs et ou même extrêmes. Vous en avez peut-être déjà croisé dans les espaces publics, puisque sa pratique est simple. Une sangle tendue entre deux points fixes, et il s'agit alors de faire des traversées en équilibre, accompagnées de quelques acrobaties. Sorte de funambulisme de rue ou sauvage, et pratiqué par une tranche d'âge plutôt jeune. Ce sport possède ses propres compétitions internationales, ses stars, mais aussi ses profs. C'est le cas de Nicolas, jeune Sévenol, tombé amoureux de la slack. Avec Thomas, il a décidé de monter l'association Aquilibre pour promouvoir cette discipline, ainsi que la danse hip-hop. Il l'explique au micro de Rémi Goujon pour Radio Escapade.
L'association s'appelle Aquilibre, elle a été créée donc l'année dernière et donc on a mis en place des activités petit à petit, donc cours de hip-hop, stage de hip-hop, initiation de slackline.
Promouvoir les cultures et sports de pleine nature et puis un peu un côté urbain, même si on est dans les Cévennes, on essaye, disons. On essaie de toucher à tout en gardant une ligne directrice.
D'ailleurs, le fait de toucher aux cultures urbaines et en même temps aux cultures de pleine nature, c'est ce qui fait notre complémentarité d'Aquilibre, je pense. C'est ce qui fait que dans une région, on ne sait pas trop si on touche à la limite de l'urbain et du rural, ou le contraire, quoi, qui permet de justement allier les deux et toucher un public jeune qui vit entre le rural et l'urbain. Donc c'est là que ça prend voilà, tout son sens. En fait, je pense que tout est parti, en tout cas pour Aquilibre, du moment où nous, on s'est lancé dans l'animation avec Thomas, donc on a passé notre BAFA ensemble. À partir de là, on a eu des points communs qu'on a eu envie d'exploiter et qu'on a concrétisé avec Aquilibre, quoi. Donc l'envie de porter un projet qui allie la culture urbaine et la culture de pleine nature. Donc c'est pas incompatible et Aquilibre s'en est la preuve. Alors la SLAC, moi c'est venu, donc c'est Thomas qui m'a fait découvrir ça, qui l'avait découvert lui dans les Alpes de manière totalement, voilà, hein, c'est comme ça, c'est un collègue qui montre, on s'y attisse et puis on continue. Donc moi à partir de là c'est la vraie passion, quoi. Et donc ça fait maintenant presque 3 ans que j'en fais et ça a continué un bon petit moment je pense. Voilà.
Ouais, puis même du côté de la Slackline, je veux dire, Nico il a bougé pas mal et que ce soit en Pologne ou en République tchèque ou quoi, il a rencontré du monde, les associations de Montpellier. On a rencontré du beau monde dans ce secteur-là.
Et c'est encore un tout petit milieu, donc c'est très familial, c'est très dynamique. Là, il y a une communauté sur Facebook bon, qui s'agrandit au fur et à mesure, mais qui à la base, c'est un cercle assez réduit au niveau mondial. Donc on arrive à tous un petit peu se connaître. Et dès qu'on bouge sur des événements internationaux, en Pologne, en Turquie, je pense aux collègues de Montpellier qui partent en Turquie et tout ça. Voilà, on rencontre les gens... qui nous ont fait découvrir la pratique par leurs vidéos ou même des petits nouveaux qui viennent d'arriver, et ça fait brasser les gens. Et il n'y a plus de frontières là, à partir de ce moment-là. Donc, je parlais de la Turquie. En Turquie, il y a un festival donc, de Highline qui se monte chaque année et ça rassemble des Iraniens, des Américains, toutes les nationalités. Donc voilà, il y a un super brassage qui se fait là.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
C'est la fin de ce carnet de région, une émission proposée et réalisée par plusieurs radios associatives en Languedoc-Roussillon. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. De mon côté, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais en attendant, je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous.